Bonsoir, me voici à New York. J'ai pris l'avion en direction des États-Unis pour cette émission spéciale en hommage à Jean-Michel Stewart. Nous allons durant une heure traverser les États-Unis d'est en ouest, car l'ouest étant l'endroit où le soleil se couche. Je voulais que cette émission hommage à Jean-Michel Stewart ressemble à celle que Jean-Michel Stewart a fait dans les années 80 et qui m'ont grandement inspiré. En attendant de sauter dans un taxi pour sortir de Kennedy Airport et de prendre contact avec Antoine de Cône, Raphaël Fouchard et Philippe Manœuvre, la radio diffuse le tube de Bruce Willis, le John McClane local, qui est actuellement de retour dans le dernier Die Hard. Respect Yourself, voilà une émission qui commence bien.
Yeah.
Cette histoire commence pour moi au printemps 1985 à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. À cette époque, j'avais 15 ans et je commençais à animer dans une station de radio locale. J'avais 4 heures d'antenne par jour et dans ce laps de temps imparti d'antenne, je passais une émission sponsorisée par une marque de cigarettes, une émission animée grandement par Antoine Cohn. Durant ses périples outre-Atlantique, j'ai découvert le blues, mais trois formes totalement différentes. Le blues rock texan, le blues typique de Memphis et le blues rock et électrique de Chicago. Et je mets un CD dans le lecteur de ma vieille Plymouth, de celui qui reste une légende du blues texan. Un destin aussi tragique que Daniel Balavoine l'emportera en août 90 dans un accident d'hélicoptère. Mais il a marqué de sa trace indélébile une manière de jouer complètement frappée encore aujourd'hui. Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. We'll be right back. Passant Trenton sur la Highway 276 pour rejoindre Pittsburgh afin d'éviter les embouteillages des rues de Philadelphie, j'entame ce voyage avec dans le cœur celui qui m'a fait découvrir, grâce à une émission, la musique outre-Atlantique, Jean-Michel Stewart, mais aussi un Marlboro Man qui a su galvaniser des émissions prestigieuses au travers des textes géniaux de Laurent Chalumeau. Je veux bien sûr parler d'Antoine de Caunes, qui attend mon coup de fil, et je repense à celui que j'ai découvert en 1985 à Memphis. Surgit tel un tigre aux dents de sabre pour nous jouer un de ces tubes prestigieux. En attendant de trouver une cabine sur la route pour appeler Antoine de Caunes, je vous laisse en compagnie de Tony Joe White et de son tube, maintes fois repris par Elvis Presley, Polk Saladini.
South too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat. They did all right. Now down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. A mean, vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must take my mess up.
Durant environ 330 émissions, Antoine de Caunes s'agitait au micro de Marlboro Music sur des textes de Laurent Chalumeau. Toutes les semaines, une ville américaine découverte avec le son de la ville, les news de la semaine et bien sûr des interviews incroyables. Évitant de justesse un contrôle routier entre Columbus et non loin de Cincinnati, je trouve mon bonheur une cabine téléphonique au beau milieu d'un parking routier pour joindre Antoine de Caunes afin qu'il me parle de son travail avec Jean-Michel Stewart. Je reste sur mes gardes, ayant trop vu souvent le film Duel de Spielberg avec la cabine emportée par le camion fou. Et je compose le numéro. J'ai le plaisir d'accueillir par téléphone un homme ayant travaillé avec Jean-Michel Stewart, animateur sans faille des émissions Chorus Ouba Ouba pour les enfants du rock et avec notamment Rock Report, bien sûr Rapido nulle part ailleurs, dernièrement présentateur de la cérémonie des Césars, producteur, humoriste, acteur, scénariste, réalisateur. Mais dans le milieu des années 80, mes oreilles étaient tendues vers un Marlboro Man qui nous faisait découvrir le son des villes américaines et il traînait ses bottes de ville en ville avec l'émission Marlboro Music dont je suis fan. Toujours fan, 27 ans plus tard. Mon invité, Antoine de Caunes. Antoine de Caunes, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir répondu présent pour nous parler de Jean-Michel Stewart. Comment vous êtes-vous retrouvé animateur et narrateur de cette émission produite par Jean-Michel Stewart?
une bonne question et comme ma mémoire me joue des tours ces jours-ci, si je me souviens bien, j'avais été approché par les gens du groupe Philip Morris, vous savez, les méchants qui fabriquent des cigarettes qui tuent, parce qu'ils cherchaient ils avaient une idée qui à l'origine était d'acheter des concerts et ils voulaient m'envoyer interviewer les artistes en concert. Et Jean-Michel était là à ce premier rendez-vous. Et c'est lui, je pense, qui leur avait suggéré mon nom. Mais il se trouve que j'avais trouvé cette idée-là absolument déplorable, enfin, d'une banalité consternante, et que j'avais fait la contre-proposition d'aller faire des émissions aux États-Unis et de faire de la vraie radio, c'est-à-dire enregistrer du son, raconter des histoires, une vidéo. Voilà. Et du coup, le travail de production j'en ai trouvé résulté, était évidemment beaucoup plus intéressant et pour Jean-Michel et pour moi. Mon premier contact avec Jean-Michel, je ne le connaissais pas parce que lui, il faisait de la disco mobile à travers la France.
Exactement.
On se foutait toujours de sa gueule d'ailleurs en parlant de Jean-Michel Stewart, avec tous ses effets sonores. C'était beaucoup rien.
D'accord.
Mais voilà, mais j'ai découvert un type absolument charmant, mais de deux univers radicalement différents, voire opposés. Et on s'est très très bien entendu et complété sur cette histoire.
D'accord. En parallèle de cette émission, il y avait donc les Enfants du Rock. Est-ce que c'était facile de concilier les deux pour vous ?
Oui, c'était facile parce qu'en fait, je travaillais un peu sur le même terreau. La musique, je faisais des émissions de musique depuis déjà un moment, parce que j'ai commencé en 78. Et donc, ça fait partie de mon travail quotidien, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les connexions. Ça me laissait suffisamment de temps d'aller faire dans le gros petit, puisque l'organisation était très simple. J'avais mon ami Chalumeau, qui à l'époque vivait à New York.
Oui.
Une fois par mois, je partais 10 jours aux États-Unis. Je le prenais au passage sous le bras, à New York, et puis nous allions écumer les États américains les uns après les autres.
Oui. Donc, de 1984 à 1987-88, à peu près, une émission par semaine, à peu près, lorsque vous refaites le calcul, à votre avis, combien d'émissions Marlboro Musique avez-vous animées ?
J'en ai pas la moindre idée, mais comme ça a duré 3 ans et que c'était une hebdomadaire, je dirais entre...
337.
300, combien ?
337.
337, ah ouais. Eh ben dites donc.
Ouais.
Eh ben dites donc. C'était des conditions idéales pour faire de la radio, c'est-à-dire ouais. On se baladait extrêmement légèrement, on avait un petit magnéto qu'on travaillait partout. On allait de ville en ville en achetant les disques et en prenant tout ce qui sortait au fur et à mesure. Et puis on rencontrait des gens extraordinaires, quoi, des musiciens, des cinglés locaux. On essayait de faire à la fois le portrait de la ville à l'instant où on y est passé, et en même temps un portrait musical.
Et d'ailleurs, je me rappelle d'une émission de Rock Report en 86 que vous avez fait. Vous aviez fait une interview du chanteur des Pogues, Shane McGowan, pour Les Enfants du Rock. Et je me rappelle que vous enregistrez également avec un Walkman son interview, qui a été également destiné à Marlboro Musique.
Oui. Il y a eu des occasions comme ça, où quand on avait des artistes difficiles à croiser, mais on en profitait pour faire les deux à la fois,
voilà.
Les radios. Oui.
Donc c'est à cette époque-là que vous avez rencontré Chalumeau, qui vous a suivi d'ailleurs sur Nulle Part Ailleurs ensuite par la suite, qui a été justement la muse, comme on peut dire, de ces émissions-là.
Laurent, ça remonte même à plus tôt que ça, parce qu'on se connaît de l'époque de Chorus, ça remonte pas à hier.
Ah ben Chorus, c'était avec Jackie en plus à l'époque, je me rappelle.
C'était
Jackie.
Entre 78 et 81.
Je sais même plus si Jackie était encore avec Serge Gainsbourg à l'époque.
Il était censé être l'attaché de presse chez Phonogramme à l'époque, oui.
Ouais. Donc il était encore avec Gainsbourg.
Et normalement, il devait y être, oui.
D'accord.
Normalement.
Par contre, lorsque des dernières émissions aux premières, lorsque j'écoute avec beaucoup de soin, j'entends également votre évolution, votre dynamisme. Il y a eu un effet rapido qui s'est enclenché. Qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps de ces émissions-là pour que vous ayez une telle pêche ?
Je ne sais pas. Écoutez, c'était le sujet qui s'y prêtait. C'était aussi l'idée que la parole devait occuper le moins de temps possible et qu'il fallait laisser la place à la musique.
Ouais.
Et puis voilà, ça donnait, ça donnait une griffe, une signature aux émissions. Parce que ça faisait un peu la différence avec le ton habituel, soit très compassé,
qu'on pouvait entendre sur les émissions de WRTL, vous savez, où oui. il a joué un peu Ricken. Et puis les autres émissions qui étaient plus de l'ordre du commentaire, du bavardage. Voilà, là. Donc c'est des textes très écrits et qui étaient dits, oui, avec beaucoup de dynamisme pour... à la fois capter l'attention de l'auditeur et en même temps laisser la place à la musique.
Oui, effectivement, ces émissions-là ont une façon de faire découvrir les États-Unis qui est et reste unique pour cette époque-là. Ouais. Cette émission a reçu d'ailleurs la galère d'or de la meilleure émission de radio sponsorisée en 86.
La galère d'or.
Oui, est-ce qu'il vous a... je me souviens de cette émission de Rhino Records, oh là là, avec le titre de Big Daddy à la Bruce Springsteen retravaillé dans les années 50.
Hein. Ouais.
Je me rappelle. Est-ce qu'il vous arrive souvent qu'on vous parle de cette aventure ou est-ce qu'on vous préfère la période de Nulle part ailleurs avec José Garcia ?
C'est vrai que Nulle part ailleurs a touché beaucoup plus de monde et sur la longueur parce que ça a duré 7 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui continuent à me parler de Marlboro Music.
Ouais.
Mais en fait, si vous voulez, Marlboro Music, pour moi, c'était une émission, c'est la radio telle qu'elle doit être.
Ouais.
La radio, c'est quelque chose qui va à la rencontre des gens. Qui raconte le monde, qui reste pas dans un studio à faire des bavardages. Quoi.
Et à propos de studio, j'ai la chance maintenant, depuis 2008, d'avoir un studio d'enregistrement personnel. Et j'ai voulu voir un peu, au point de vue du montage d'une émission comme celle-ci, comment ça se passait, comment c'était compliqué. Donc, étant donné que j'avais les textes par cœur en tête, je me suis dit, je vais essayer d'en faire une ou deux. J'en totalise 5 en 6 mois. Et je peux vous dire que je suis admiratif d'un travail colossal des montages qu'il y avait de Marlboro Music, parce que d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait des bandes magnétiques. Comment se passait le montage de ces émissions-là ? Est-ce que vous aviez eu accès à ça ?
Écoutez, moi j'allais faire une fois rentré des États-Unis, on écrivait des missions avec Laurent, et ensuite j'allais enregistrer des textes chez Jean-Michel, qui avait sa maison au studio à Champigny-sur-Marne. Je me souviens très bien de lui m'accueillant en peignoir satin Marc Dorcel, en me proposant des cafés le matin, et ensuite, pendant qu'il allait changer, je me chauffais la voix, et après on faisait alors d'un côté des enregistrements de voix, jusqu'à ce qu'on se entende, et après lui plongeait dans toute sa cuisine, il avait un assistant très qualifié d'ailleurs à l'époque, qui travaille maintenant à Canal, et oui, il y avait un travail de production assez colossal, une fois que les voix étaient prises.
Est-ce que justement le fait d'avoir travaillé avec Jean-Michel Stewart vous a fait évoluer pour narrer, pour être présentateur, pour avoir un peu plus d'assurance en vous ?
Non, parce que c'était quelque chose qui était déjà là à l'époque, si vous voulez, comme c'était un terrain familier pour moi, les émissions de rock, les magazines, enfin, j'avais quelques années d'expérience derrière, mais en revanche, c'était ma première expérience radio, et j'insiste là-dessus, sur une radio qui est pas une radio de studio, pas une radio assise. Et du coup, avec Jean-Michel, on a fait les premiers voyages ensemble, et évidemment, le temps de mettre ça en place. Et après, lui est resté à Paris pour s'occuper de la post-prod. Mais je pense qu'évidemment, on apprend à chaque étape. Moi, c'était la première fois que je faisais de la radio, et de la radio dans d'aussi bonnes conditions,
oui.
Conditions de liberté totale. Donc certainement que ça a influé après sur le ton, le tempo, l'approche, mais je ne saurais pas faire la part des choses aujourd'hui.
C'est clair. Je dois vous remercier grandement parce que c'est grâce à votre dynamisme et à cette émission qui m'a ouvert les oreilles en 85, parce qu'en 85 je faisais partie d'une petite radio locale du Tarn-et-Garonne.
Ouais.
Et c'est grâce à cette radio-là et à votre dynamisme que 27 ans plus tard je fais toujours de la radio.
Eh ben, écoutez,
que je suis toujours aussi passionné de musique.
Ouais.
Vous m'avez fait découvrir les Fabulous Thunderbirds, Delbert McIntyre, Brian Adams, Johnny Winter, Tony Joe White, Al Green, John Cougar. J'en passe, c'est des meilleurs parce que cette émission-là, franchement, je décolle pas. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me passe pas une émission Marlboro Music.
Mm-hmm. Bon,
même si je les connais par cœur. D'autant plus que, en plus, j'ai monté ma boîte de prod, JMC Productions Disco Mobile. C'est pour vous dire que je suis aussi Disco Mobile comme Jean-Michel. Et je m'appelle
alors,
Jean-Michel.
Et vous faites les da-da-da-da-da-da-da quand vous parlez aussi. Vous pouvez m'en faire un, là.
Non.
Ben voilà.
Par contre, juste une petite dernière question, juste très vite, à propos de Nulle part ailleurs.
Ouais.
Vous avez créé une galerie de personnages incroyables, comme Didier Lambrouille. Est-ce qu'à un moment donné, il vous est venu l'idée, peut-être, de faire un film sur les aventures de Didier Lambrouille ?
Non, mais il n'est pas impossible que Didier Lambrouille se retrouve dans un film.
Ah, voilà. Ça serait bien, ça.
La réponse mystérieuse à une question...
Ça serait bien. Ouais. Et juste pour terminer, un petit générique, comme ça.
Ouais.
Vite fait, 3-4. Ça rappelle les souvenirs ?
Ah bah oui, directement, oui.
La deuxième émission de folie à Austin.
Ouais, très bien.
Près du Mexique.
Californie pour le Texas, c'est un peu comme sortir d'un concert du Pink Floyd pour aller voir les Sex Pistols.
Et voilà, c'est vous.
Eh ben voilà.
Merci infiniment.
Je vous en prie. Merci, au revoir.
Maintenant, je vais joindre par téléphone quelqu'un qui est responsable techniquement de tout ce qui a trait à l'émission Marlboro Music. Je veux bien sûr parler du technicien magicien de cette émission-là, c'était Monsieur Raphaël Fouchard. Il a monté les dernières émissions de l'émission Marlboro Music, a travaillé également avec Phil Manœuvre sur Hollywood Music Chewing Gum, et je l'appelle tout de suite au téléphone. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent pour cet hommage rendu à Jean-Michel Stewart. Comment est-ce que tu t'es retrouvé technicien et monteur des émissions produites par Jean-Michel Stewart?
Alors, c'est une très vieille histoire. Ça remonte à un peu plus de 20 ans. J'avais 18 ans et demi. J'ai décidé de pas continuer mes études. Juste avant le bac, je me suis dit c'est plus possible. J'ai donc cherché à travailler. Je voulais à l'époque être guitariste, manager, etc. Donc, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose dans la musique.
Ouais.
J'ai ouvert des petites annonces dans différents magazines, ou Sonovision, je me souviens plus, les magazines de l'époque. Et puis j'ai trouvé cette annonce de Jean-Michel qui avait un studio dans la même ville que moi. Je crois que c'est ça qui a été ma grande chance. Et donc quand il a vu que quelqu'un qui habitait juste à côté de chez lui postulait, il m'a reçu. Et j'avais à l'époque 18 ans et demi, et puis bah voilà, il m'a fait essayer. J'ai commencé à travailler avec lui en stage, et puis l'aventure a duré comme ça plusieurs années.
Oui. D'accord. Je dois souligner quand même un travail colossal des mixages, entre les bruitages, les interviews, avec la traduction en français derrière, les jingles. C'était pire que faire une préparation culinaire, non?
C'est un peu comparable, effectivement. C'est un peu comparable à la seule différence que ça se rapprocherait presque, pour faire la comparaison, c'est presque plus de la pâtisserie, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur.
Ouais.
Alors que quand vous faites un bourguignon, vous allez rajouter un peu de sel, un peu de poivre au fur et à mesure, et puis vous allez pouvoir changer. Alors que là, dans ce cadre-là, vous devez avoir un déroulant qui est prêt à l'avance, avec toutes vos bobinots qui sont prêts, toutes vos bandes qui sont prêtes, les vinyles, et puis tout doit partir à un moment très précis, parce que...
Ouais.
C'est pas en direct, mais malgré tout, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que sinon, vous repartez sur le titre d'avant. Enfin voilà, c'était à l'époque des Revox, des
oui.
Platines, oui. Rien de numérique à cette époque-là, quoi. Donc effectivement, c'était un peu... voilà.
Exactement.
L'apprentissage a été plutôt long, pour être très honnête avec vous, et j'ai pas été doué tout de suite.
On s'est bien sûr parlé au téléphone, j'ai évoqué avec toi la collection de vinyles qu'avait Jean-Michel Stewart.
Oui.
Cette collection de disques regroupait tous les disques depuis ses débuts d'animateur en disco mobile, tous les albums, Maxi 45 Tours, 45 Tours, sans doute, mais bon. Tu m'as d'ailleurs fait une confidence à ce sujet. Bref, des milliers de disques sont passés entre tes mains. Pour faire quoi au juste, d'ailleurs?
Jean-Michel était quelqu'un de très rigoureux, de très vraiment, tout doit être bien précis, bien fait, bien rangé, de manière à ce qu'il puisse tout retrouver, que tout soit bien dans ses cases. Et donc, il m'avait demandé, pendant mes heures perdues, de tamponner chacun de ses disques avec un numéro. Donc, avec un tampon où je montais le numéro, j'implémentais les numéros les uns après les autres à la main, comme à la poste.
Oui.
Donc j'ai tamponné tous ces numéros du numéro 1 à je sais plus combien de dizaines de milliers, et je les ai ensuite tous rentrés dans une base, dans un fichier, de manière à ce qu'ils puissent savoir quels étaient tous les disques et où ils se trouvaient, et donc c'était une somme de travail absolument colossale.
Ouais.
Je faisais ça comme ça, voilà, quand j'avais une heure par-ci, j'en tamponnais une vingtaine, et puis je les entrais dans l'ordinateur, et j'ai fait pareil avec ces CD, quand il y a des CD, enfin avec ses 45, avec ses 33 tours, enfin il y en avait partout. Vous ouvriez les placards chez lui, il y en avait partout.
Il y a eu combien de disques dans sa collection?
Non mais sincèrement, je ça remonte à tellement de temps que je m'en souviens plus, mais je crois que j'ai dû taper du 10-15 000 rien que sur les 33 tours. Je devais en être à 15 000 pièces. C'est-à-dire que tout au long de sa carrière de disco mobile, il achetait tout.
Oui.
Les choses qu'il mixait, ensuite les maisons de disques lui envoyaient,
oui.
Et au-delà de ça, quand il faisait les émissions Marlboro Music avec Antoine Decaune et Club Hollywood avec Philippe Manœuvre, il récupérait des disques des États-Unis, des imports, des choses comme ça, donc il avait effectivement une collection magistrale.
Oui.
Et le plus extraordinaire, c'est qu'il n'écoutait quasiment jamais aucun de ses disques. C'est des choses qui m'a toujours étonné.
Ah bon?
Ah mais c'est extraordinaire, il voulait que tout soit répertorié, que tout soit marqué, que tout soit noté, de manière à les retrouver, parce que c'était un grand professionnel, quelqu'un qui a vraiment la rigueur absolue, donc il voulait pas être pris au dépourvu. Quand on lui dit voilà, j'ai besoin de tel disque,
ouais.
Il voulait pouvoir le trouver tout de suite. Mais par contre, c'était en aucun cas pour se dire tiens, aujourd'hui j'ai envie d'écouter telle musique. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je serais incapable de vous dire quel style musical il aimait. Non, mais Jean-Michel était effectivement quelqu'un de différent. C'était quelqu'un qui, enfin moi, ça a été quelqu'un de très important dans ma vie, puisque je l'ai vraiment rencontré, j'avais 18 ans, c'était un grand professionnel. professionnel. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 41 ans, ouais. donc ça fait quand même 22, 23 ans. C'est quelqu'un sans qui je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Donc à l'époque, j'avais une vision qui va être bien évidemment différente que celle d'Antoine Decaune, des Manœuvre, des Chalumeau, qui étaient déjà des adultes accomplis à ce moment-là. Oui. Et donc moi, effectivement, de temps en temps, je trouvais ce personnage très exubérant, mais très sérieux. Enfin, c'était un paradoxe ambulant, Jean-Michel, mais quelqu'un qui donnait tout, qui se prenait pas la tête. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que moi, de ma position, j'avais, qui vivait les choses telles qu'il avait envie de les vivre. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui n'avait pas l'ombre d'un souci.
D'accord. Donc, c'était les dernières émissions Malbourg Musique dont tu as été le technicien, justement.
Alors oui, c'est ce que je te disais quand tu m'as appelé. Je me souviens plus exactement de mémoire. Ça date de, je crois, j'ai commencé mon stage chez lui juin-juillet 90.
Ouais.
Je pense, alors je sais plus quelles sont les dernières que j'ai faites. Je crois qu'il y en avait combien des Malboro 374, quelque chose comme ça, je me souviens plus.
334, précisément.
Ah, 300, j'avais le premier et le dernier chiffre.
t'avais pas celui du milieu, d'accord.
Voilà. De mémoire, je pense que j'ai dû en faire quelques 20-25 émissions.
Ouais.
Au moment où je suis arrivé, on va dire que toute la structure était mise en place. C'est Jean-Michel, à la limite, moi je préparais toutes les émissions, c'est-à-dire je nettoyais, je coupais les bandes magnétiques, je préparais toutes les ambiances sonores d'un côté, je posais toutes les bandes sur les Revox, les vinyles, etc. Je faisais ce qu'on appelait le routeur.
Ouais.
Et puis après Jean-Michel venait au début, c'est lui qui mixait, et c'est moi qui leur posais des disques, etc. Puis petit à petit, je mixais de plus en plus, etc. Je pense que j'ai dû faire à peu près une trentaine d'émissions Malboro Musique.
Ouais.
Donc on va dire les 6-8 derniers mois de la vie de l'émission, sans jamais enregistrer Antoine Decaune, puisqu'en fait à cette époque il travaillait chez Canal et chez Europe 2 de mémoire, et en fait j'allais juste récupérer les bobineaux ou chez Canal ou chez Europe 1 où il enregistrait en fait les voix, et puis voilà, j'allais récupérer les bobineaux auprès de son assistant, je les ramenais et puis je les montais après chez Jean-Michel.
Oui.
En fait, tout, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on chronométrait tout. C'était pas aujourd'hui, enfin pour ceux qui savent un peu faire de montage sur du Pro Tools ou des outils comme ça, vous avez votre fichier web que vous déplacez à droite à gauche. Vous avez une visualisation. C'est presque comme d'utiliser un Word ou un Excel. C'est comme de faire du Tetris. On place des petits blocs à droite à gauche.
Bah, c'était vrai.
Voilà, à l'époque, vous étiez obligé de chronométrer la voix. Vous disiez, bah voilà, ce que dit Antoine dure 1 minute 12. Et puis vous saviez que le disque, il démarrait par exemple le hurlement dans un disque ou le début d'un coup de guitare sur lequel vous vouliez démarrer après la voix commençait à 40 secondes. Bah vous calculiez, vous disiez, bah voilà, faut que je démarre le disque à 20 secondes de la voix. Et bim, vous lanciez votre disque là. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, si tu ratais ton enchaînement, et ben bim, il fallait relancer le disque d'avant,
ouais.
recaler tous les magnétos,
ouais.
Remettre le magnéto rec, et puis ne surtout pas oublier, ce qui m'est arrivé 2-3 fois, ne surtout pas oublier, quand l'enregistrement était fini, ben de couper le trou qu'on avait fait pour le recoller.
Ah oui.
Voilà.
Alors, quel est le souvenir le plus impératif que tu gardes sur Jean-Michel Thibaud et sur cette aventure, justement?
Sur l'aventure Malbourg Musique, bah c'est moi ce que j'ai regardé lui, c'est surtout qu'il a pris un petit bonhomme de 18 ans et demi et qui lui a dit bah écoute viens bosser, viens regarder comment ça marche, et puis que de là j'ai découlé tout le reste de ma vie. Donc voilà, moi le seul et unique souvenir que j'ai gardé de lui avec quelqu'un qui était à la fois mais d'une exigence et d'une chienlit dans le boulot assez hors du commun, parce qu'il était tellement exigeant que il y a un moment ça devenait presque psychorigide, mais d'un autre côté c'est pour ça qu'il était ce qu'il est, qu'il était aussi bon et qui m'a autant appris. Donc c'est ça que je vais garder, et puis la patience qu'il avait à finalement l'affection, et c'est ça, c'est-à-dire il avait un côté très affectif, très humain, mais qui ne se voyait pas immédiatement comme ça, donc c'était vraiment un paradoxe. Quoi.
Oui, d'accord.
Voilà ce que je garde de Jean-Michel.
Ok, concernant donc maintenant Philippe Manœuvre que tu as bien connu, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce Philippe Manœuvre alors?
Philippe Manœuvre en lui-même, c'est pareil, c'est-à-dire que Philippe est arrivé dans la carrière professionnelle que j'ai eue, il est arrivé quelques temps après que j'ai rencontré Jean-Michel, j'ai commencé à peu près à savoir comment ça se passait, comment on travaillait. Là, Philippe est arrivé, j'ai rencontré un personnage très simple, très cool, qui a tout de suite été vraiment très adorable avec moi, d'une simplicité extraordinaire, qui quand il y avait un truc que je savais pas faire, qui marchait pas, et ben systématiquement il était le premier à me dire bah écoute t'inquiète pas, faut faire comme ci, faut faire comme ça, ne prends pas la tête, enfin voilà, si j'avais le moindre problème il était là pour me dire bah non mais c'est pas grave, enfin voilà, voilà moi le souvenir que j'en ai de la rencontre avec Philippe Manœuvre qui a vraiment été super simple et super de très bons moments. Je me rappelle qu'il m'a tout de suite intégré à sa famille, c'est-à-dire qu'il m'invitait chez lui, je me retrouvais avec ses enfants, avec sa femme, avec enfin voilà, c'est c'est quelqu'un qui m'a immédiatement ouvert les bras, alors que j'étais, enfin voilà, j'étais un petit gamin de 19 ans qui commençait à bosser, qui était super mauvais, mais il m'a tout de suite fait confiance, il m'a mis en charge de l'aider à faire certaines choses, voilà, enfin c'est quelqu'un qui a été pour moi vraiment extraordinaire.
Alors je pense que c'est techniquement possible de te garder en ligne, surtout tu te planques dans un coin, Raphaël, on va faire une surprise à Philippe Manœuvre justement, tu attends mon signal Raphaël pour intervenir, ça sera sans souci. Hein. Philippe Manœuvre, c'est bien sûr des émissions cultes, l'impeccable Sex Machine avec bien sûr les Enfants du Rock, chevalier de l'or des arts et des lettres, remise en personne par le gladiateur de Détroit, l'iguane Iggy Pop, sur France Inter bien sûr, l'émission intersidérale, Radio Manœuvre, La Voix du Lézard, Speed 17, Rock and Folk, Metal Hurlant, Top Bad, Rock Press Club, Rock and the City, Philippe Manœuvre, bonjour.
Bonjour.
Je te remercie vraiment d'être dans l'émission Flashback pour cet hommage rendu à Jean-Michel Stewart, que tu as bien connu justement. Donc je voudrais savoir comment tu as été animateur dans Hollywood Music Chewing Gum, cette émission réalisée par Jean-Michel Stewart à l'époque.
Mais c'est Jean-Michel qui nous contactait, tu vois, il était très au fait de ce qui se passait. Il faut savoir que le Stewart, on l'appelait le Stewart, parce que c'était quand même un personnage plus grand que nature. C'était un bonhomme qui avait... le premier devinait l'importance des nouvelles musiques pour la France, et il avait créé ce qu'il appelait un disco mobile. Donc il avait inventé un peu le DJ moderne, c'est-à-dire qu'à une époque dans les années 60 où tout le monde, tous les bals de village, c'était le groupe obligatoire et généralement avec un accordéon ou une chanteuse populaire, comme on dit. Bon, lui, il arrivait avec une énorme sono, oui, des platines, et il envoyait les disques que tout le monde voulait écouter et il cassait la baraque, quoi. Donc, c'était, voilà, il avait inventé ça. Donc, ensuite, il était resté extraordinairement affûté sur tout ce qui était spectacle. Et donc, il a travaillé, il a monté des émissions de radio avec Antoine Decaune, Alain Chabat et moi. Il s'était dit, bon, bah, ces trois mecs, les gens les connaissent, oui, les apprécient éventuellement, donc on pourrait aller un peu plus loin. Et donc, c'est ça qui était très fort. À chaque fois, il était venu. Donc, l'émission d'Antoine, c'était Marlboro Musique.
Exactement.
Il faisait une balade à travers les États-Unis. Il y avait Chalumeau et Antoine qui nous racontaient l'Amérique.
Et il y avait Alain Chabat également avec Rigueur Passion.
Voilà. Et moi, c'était Hollywood. Et moi, c'était une déclinaison des parades radio FM américains qui nous manquaient un peu à l'époque. On ne savait pas. C'était quand même une époque pré-Internet où personne... voilà, aujourd'hui... bien sûr, vous pouvez savoir ce qui se passe autour de la planète. Si vous voulez savoir ce qu'écoutent les Américains, vous tapez sur Google, hit parade américain, vous voyez tout vous tombe tout rôti.
Et voilà, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Par contre, tu parles de Laurent Chalumeau avec Antoine Decaune. Est-ce que les émissions que tu as faites justement avec Jean-Michel Stewart, les textes étaient de Laurent Chalumeau également?
Ah non, pas du tout. Ça, c'était moi tout seul. Je faisais mes propres textes. Alors on allait enregistrer chez le Stewart parce qu'il s'était installé, oui, dans la banlieue parisienne, non loin du parc Euro Disney.
Champigny-sur-Marne.
Voilà, à Champigny. Et donc avec son ingénieur du son, Raphaël, donc il fallait arriver de bon matin, on prenait un café, on discutait avec Jean-Michel, on était en... Ouais. En phase, enfin ça se passait très très bien.
Par contre, j'ai quelqu'un au bout du fil qui voulait parler à Phil. Il s'appelle Raphaël.
D'accord, c'est le Frochard.
Ouais.
Comment ça va, Raphaël?
Bah écoute, ça va super bien. Ça va très 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 bien. Là, je suis dans un très très bon moment. Depuis notre rencontre, il y a une vingtaine d'années qui se sont passées. Je t'avoue que la vie a été plutôt cool avec moi. Donc sur le plan personnel, je te raconterai une autre occasion. Et sur le plan professionnel, ça se passe super bien. Donc je suis un homme heureux et accompli, notamment grâce à tout ce qu'on a vécu avec Jean-Michel et avec toi. Et ça fait très très plaisir.
Oui, bah ouais, là, même nous, on savait que ce Fruchard irait loin, quoi. C'est un pro, un mec fiable.
Vous étiez bien les seuls à savoir, mais vous m'avez dit, mais effectivement, vous avez été l'essence et le tremplin de ce moteur, et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, c'est super cool. Je fais toujours le même métier. J'ai une société qui fait des bandes son pour de la publicité. Je fais près de 200 pubs pour les grosses agences. Je fais de la production de documentaires. Enfin, voilà, c'est super cool.
Mais c'est génial. Bah, bravo, Raphaël. Bravo. c'est mérité.
Bon,
c'est
voilà, donc c'est un moyen technique de vous faire re-rencontrer grâce à mon truchement, voilà.
Merci beaucoup.
C'est très agréable, merci, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je voulais remercier. J'ai pas pu malheureusement remercier Jean-Michel, et je me suis pris malheureusement un peu tard, mais ça me fait très plaisir de dire ça. Je te rappellerai à l'occasion, Philippe, pour que
okay.
Parler plus en détail de tout ça, ce sera un grand
plaisir. Ok, Raphaël, est-ce que tu as mon numéro
c'est, oui, je vais trouver ça, bah, Rock et Folk, j'imagine, non?
Ok. Ok, Raphaël.
Je t'appelle dans les jours à venir et je te remercie infiniment. En tout cas, je vous laisse avec Jean-Michel faire ce que vous avez à faire.
Au revoir, Raphaël. À bientôt.
Je te rappelle très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Michel.
De rien.
Au revoir. Ciao.
Salut.
Ça, c'était la petite surprise que je voulais te faire. Voilà.
Oui, bah, bravo.
Donc, nous étions restés sur Jean-Michel Stewart. Alors,
Jean-Michel était un bon vivant. Voilà. C'est ça qui était bien. Avec lui, il y avait une espèce de... Il fallait que ça se passe bien. Quoi.
Raconte-moi la meilleure anecdote que tu as sur lui.
Non, j'ai pas de meilleure anecdote. Non, mais c'était quelqu'un de responsable, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui se bagarrait pour que le spectacle continue, que le show se passe bien. Voilà, non, c'était vraiment quelqu'un de formidable, d'épatant, quoi. Il nous apportait une espèce d'optimisme positif qui a totalement disparu aujourd'hui.
C'est un coup de fouet quoi qu'il a donné carrément.
Oui, bien sûr, non mais c'était génial quoi, il nous rendait vraiment la vie agréable pour nous travailler avec lui, ça a été une vraie période de 3 ans de vacances quoi.
Ouais. 3 ans de vacances payées quand même.
Évidemment, pas évidemment, bien sûr. Non parce que Jean-Michel était quelqu'un de scrupuleux, de rigoureux, de tous les gens avec qui il a travaillé, vous les contactez aujourd'hui les uns après les autres, ouais. Tout le monde va vous parler, vous dire oui, il était formidable, mais c'est voilà. Je me souviens, une année, c'était incroyable, une année il avait décidé pour ses cadeaux de Nouvel An, pour tous ses amis, qu'au lieu d'envoyer une carte de vœux totalement imbéciles, comme on fait tous, oui. Comme on faisait tous avant Internet, lui, il enverrait un cadeau qui serait des trucs, des tac au tac, vous voyez, des trucs de loterie, quoi.
Ah, d'accord.
Voilà, et...
Ça a été un des premiers à le faire, alors.
Voilà, il a été vraiment le premier, quoi. Mais après, il était obsédé, parce qu'il me disait, et si quelqu'un avait gagné, est-ce que tu crois qu'il me le dirait? Donc... Oui, il me voyait régulièrement. Moi, j'avais gratté devant lui. Tu vois, j'ai perdu. Ah bon, c'est bien. Mais ça le fascinait. Il se disait tout le temps, pendant un an, il m'a parlé de ça. Mais c'était quelqu'un de... Voilà, c'est quelqu'un qui avait des idées. Quelqu'un qui avait des idées novatrices, formidables, ouais. Qui était capable d'organiser un concert pour un président de la République comme quand qui venait d'être élu, c'était lui qui s'organisait les opérations Place de la Concorde des fois, hein. Il faisait des très gros trucs, il avait les sonos, les lumières, enfin il était totalement ouais. Professionnel, ouais, voilà.
Tout à fait, d'ailleurs il y a un site www.steward.fr justement qui est un site qui rend hommage à Jean-Michel Stewart justement sur le travail qu'il a fait. Lorsqu'on t'interpelle dans la rue, on te parle beaucoup plus des Enfants du Rock à mon avis que des émissions avec Jean-Michel Stewart peut-être.
Ah bah, bien sûr, mais tu sais, les émissions de radio, elles ont une vie elles frappent pas les imaginations comme les Enfants du Rock ont pu frapper.
Ah
les...
ça, alors je vais te dire que c'est grâce à ton émission avec ton partenaire
Jean-Pierre Bionnet.
Ah
ben,
je crois que j'ai découvert le funk, parce que après le punk, il n'y avait rien.
C'est vrai.
Et j'ai découvert le funk, parce qu'en plus, en 85, je débutais dans une radio locale qui s'appelait Radio Ingres à l'époque. Et si ma mémoire est bonne, en 83, vous avez été les premiers à diffuser Michael Jackson, Billie Jean.
C'est vrai.
Et
c'est
puis, vrai. Pour moi, vous avez été une vraie mine d'or, parce que quand je faisais mes débuts en radio, j'avais 4 heures d'émission journalière. Et je prenais des notes le samedi soir, pour savoir ce que vous passiez. Pour essayer de coller au mieux dans la semaine. Donc, du lundi au vendredi, ça aussi, merci, hein, Philippe.
Écoute.
Parce qu'en plus, j'écoutais cette émission-là, je me faisais engueuler par ma mère parce que c'était trop tard, que le son était un peu trop fort, mais j'y pouvais rien. À l'époque, je regardais ça sur un petit poste en noir et blanc, et la taille de l'écran, c'était à environ 2/3 d'une feuille A4.
Ben oui.
C'est pour te dire un peu les concerts que j'ai vus sur ce tout petit écran. Quand j'ai pu me payer un vidéoprojecteur, je peux te dire que les concerts que vous passiez, Il y a un concert que tu m'avais fait découvrir avec cette émission-là, qui c'était Duran Duran Arena.
Ah oui, c'était magnifique.
Mais alors, celui-là...
Et c'est ça aussi, voilà. Il y a un autre truc que je voudrais dire sur Jean-Michel aussi, c'est que lui, il avait vécu la période des années 60, la plus démente, vraiment, arrivait, on en parlait, enfin, il y avait des disques qui faisaient bouger les gens, mais c'était électrique, quoi. Il y avait déjà, les gens découvraient la musique rock, la musique soul, et bon, il y avait certains disques clés qui faisaient instantanément bouger les gens, bouger les foules. Et lui, il avait vécu ça, mais c'était donc ce que tout le monde considère comme l'âge d'or. Mais il était complètement intéressé par ce qui se passait au présent. Il n'était pas du tout recentré en disant « ouais, nous, avant, c'était mieux ». Il était totalement dans le présent et il s'intéressait à ce qui se passait. Donc ça, c'était vachement agréable. C'était très, très bien.
Le travail que tu as fait avec Jean-Michel Stewart, donc, est-ce qu'il t'a apporté de l'assurance sur des projets et réalisations futures? Parce qu'en même temps de ça, tu faisais Les Enfants du Rock.
C'était juste après, je crois. Je travaillais à Canal Jimmy déjà.
Canal Jimmy déjà. Parce qu'il n'y a pas eu il y en a eu combien des émissions Rock and the City
sur Arte, il y en a eu 5.
Mais purée, pourquoi t'as pas continué? C'était
génial. Parce que les chaînes commandent des émissions et qu'après elles les arrêtent et qu'elles les crochent. C'est pas nous.
Mais alors,
c'est vrai que les gens arrêtent de croire que c'est nous les présentateurs qui disent ah oui tiens cette année je vais travailler sur Arte ou cette année non les
non,
gens
mais attends,
nous appellent.
Quel dommage. C'est vraiment une émission que j'aimerais bien trouver en DVD, tu vois, parce que.
Elle existe.
Elle existe.
Oui, ça a été fait. Je peux t'en retrouver. Si je peux t'en retrouver, je te les enverrai.
Est-ce que justement Jean-Michel Stewart t'a inspiré pour tes projets à venir?
Non, mais c'est parce qu'on travaillait au quotidien, on travaillait au jour le jour, on était en phase. Et puis à un moment, on est parti dans d'autres trucs. Moi, je suis parti sur Canal Jimmy, faire le Rock Press Club. Jean-Michel a pris sa retraite. Hein. Ouais. Voilà. On s'était fait des promesses de vacances, de se revoir. Et il est venu. Chaque fois que je passais dans sa région, on se voyait. Enfin, il est venu notamment quand j'avais fait la première dédicace à Montpellier. Voilà. Donc, oui, c'était un ami. Voilà. Ouais. C'était un ami. C'est quelqu'un. Parce que dans nos professions, souvent, on travaille avec des gens pendant 3 ans, et puis après, on les revoit jamais, ils disparaissent, ils partent là. Mais là, avec Jean-Michel, on avait gardé un bon contact, et c'était parce que c'était quelqu'un de formidable. Voilà, c'est bizarre de parler. Moi, il me semble que la porte pourrait... Il était tellement présent que on avait vraiment, je pense, à ses proches, à sa compagne adorable. Ils ont dû être stupéfaits, ça a dû être pour eux nucléaire, quoi, une disparition comme ça, parce que c'était un bonhomme énorme. Écoutez, voilà, moi, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, hein, concrètement, sur notre copain, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre.
Simplement, c'est que moi, j'aurais voulu bien le rencontrer, et à travers, justement, toi, ainsi que Antoine Decaune, j'ai l'impression de le connaître un peu mieux. Parce que c'était, on me parle toujours de Jean-Michel Stewart comme quelqu'un de formidable. Il a laissé de sa trace et je regrette vraiment que les gens de cette époque-là, de 2012 là, ne sachent pas qui il était en réalité, qui il était et ce qu'il a fait aussi pour faire avancer un tant soit peu la musique en France.
Bien sûr, ben oui.
C'est ça qui est dommage.
C'est pour ça que c'est une émission, c'est un beau projet, il faut aller au bout, c'est bien, c'est magnifique, c'est bien, il faut faire un devoir de mémoire quoi pour des gens comme ça, parce qu'il a juste, c'est un bonhomme qui a juste donné de la joie, de la bonne humeur, qui a fait en sorte que le spectacle se passe bien pour tout le monde, donc c'est un peu, il a été sur le devant de la scène, puis après il a su se mettre à l'ombre, mais il a fait vraiment une carrière sans faute, quoi, vraiment.
Merci infiniment, Philippe Manœuvre.
Eh bien, je vous en prie. Merci à toi.
C'est en ayant traversé la frontière du Nouveau-Mexique que je passe lorsque le soleil commence lentement sa descente vers le désert qui est en face de moi. Je trouve une place pour me garer, non loin d'un bâtiment abandonné qui ressemble étrangement au café du film Bagdad Café. Et je repense à ces gens qui ont marqué leur temps et l'histoire musicale. Jean-Michel Stewart, l'homme par qui le coup de fouet arrive. Antoine Decaune, celui dont les interviews de qualité ont été quelque peu oubliées au fil du temps, et c'est bien dommage. Et Philippe Manœuvre, qui continue sa route avec toujours le même amour de la bonne musique. Et Raphaël Fruchard, le routeur et technicien de Jean-Michel Stewart. Je les remercie tous, même ceux qui travaillent dans l'ombre et que je ne connais pas.
Et je repense à ce qu'on disait avec Philippe Manœuvre tout à l'heure. Après le punk, il y a eu le funk. Oui, mais là je me dis, à quand la prochaine révolution musicale ? L'homme aurait-il perdu la bataille face aux grandes industries du disque ? Il ne faut pas que le soleil de ce soir se couche sur un désert musical, mais sur un espoir de voir un jour ou l'autre quelqu'un qui fera encore bouger notre poste radio et lancera un nouvel élan. Espérons tout de même de ne pas attendre trop longtemps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission hommage à Jean-Michel Stewart avec Laurent Chalumeau, Daniel Castel et Patrick Charles. On se quitte avec Bob Seger et un titre qui résume un peu ceci. Il est parfois bon, comme disait le poète, de jeter un coup d'œil sur son passé. Ça permet d'éviter de mettre le pied dans n'importe quel futur. Salut, je vous aime tous.
I was a little too tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes. And points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy. Working on mysteries without any clues. Working on our night moves. Trying to make some front page driving news. Working on our night moves. Summertime. In the sweet summertime. We were in love, oh no, far from it. We were searching for some pie in the sky summer. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could. To the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share. Working on our night moves. Trying to lose the awkward teenage blues. Working on our night moves. The lightning, yeah. Waited on the thunder. Waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves? When you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves. With autumn closing in.